بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 17 du mois Shawwal de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 5 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture de cette risala très bénéfique, Mahiyya Salafiyya, de notre cheikh Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, ainsi que tous les savants de la sunna. On s'est rendu au cinquième point, au cinquième point de cette risala, dans lequel Cheikh Hafidhahullah a parlé du mérite du suivi de Salaf et de la Salafiyya. Du mérite du suivi de Salaf et de la Salafiyya. Et nous avons vu que le suivi de cette méthodologie et de cette voie est un ordre divin, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie de ce que Allah aime et agrée. Car comme vous savez la règle, tout ce que Allah a ordonné de faire, il l'aime, il l'agrée. Également, cette voie est la voie de la guider et de la préservation de toutes les formes de l'égarement et de la déviance. Et le troisième point qu'il a mentionné, c'est que celui qui suit cette voie, il est à l'abri de tomber dans la divergence blâmable. Il est préservé de tomber dans la divergence blâmable et dans la division blâmable, le désaccord et la division blâmable. Et on avait vu à cette occasion, que pas toute division est blâmable. La division qui est blâmable, c'est la division entre les gens qui suivent la vérité. Lakin, la division et la distinction entre le vrai et le faux, cela est demandé. Et le Nabi Aïssa-Salam a été décrit ainsi dans le ciel par les anges. Ils ont dit « Muhammadun farqun bayna nas » rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et dans une autre narration, « Muhammadun farraqa bayna al-nas ». Lakin, jamais la vérité n'a été la cause de la division des gens de la vérité. C'est pour ça, ce qui compte pour le croyant, c'est de connaître cette voie, cette méthodologie de salaf, de la connaître avec science, et de la suivre, et de se préserver de rentrer dans le fitian ou les choses par lesquelles on n'est pas concerné directement. Et ça, c'est un signe de la bonté de l'islam de la personne. C'est qu'il s'occupe des choses qui le concernent directement. Et le quatrième point auquel on s'est rendu et qu'on n'a pas encore lu, il a dit, rabi'an, da'iman min fada'ili hadhi ittiba' as-salaf was-salafiyya, rabi'an, qala al-fikaku min subul ash-shaytan. Donc l'éloignement et le détachement des voies de shaytan. Quand on suit cette voie de salaf, alhamdulillah, on s'éloigne du suivi des sentiers de Shaytan. قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة. L'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, un des grands savants de Salaf, dans son livre As-Sunna, il a dit, قال الله عز وجل, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به إلى سيتي جوسكلا لعلكم تتقون dans la suite du verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ce verset, il dit « Voilà ma voie, elle est toute droite, suivez-la donc et n'empruntez pas les chemins qui vous en éloignent, c'est ce qu'il vous recommande, afin d'atteindre la piété. » Donc c'est le chemin de la piété, de rester attaché, de rester ferme sur la voie de la droiture. Et la voie de la droiture, ce n'est autre que la voie sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ses nobles compagnons, dans tous les domaines de la religion, et aussi dans la compréhension des textes. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi a commenté ce verset. Il a dit « فَأَخْبَرَنَا اللَّهُ أَنَّ طَرِيقَهُ وَاحِدٌ مُسْتَقِيمٌ وَأَنَّ السُّبُلَ كَثِيرَةٌ » Donc Allah nous informe dans ce verset, il dit l'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, Allah nous informe dans ce verset que sa voix, elle est unique et elle est droite. Et que les sentiers, les autres chemins, sont multiples et nombreux. تَصُدُّ مَنِ اتَّبَعَهَا عَنْ طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيمِ Et en plus, ces chemins nombreux et multiples repoussent celui qui les suive et l'empêchent d'être dans la voie droite. Donc celui qui emprunte ces chemins, comme Allah il le dit clairement, ceci l'éloigne de la voie droite qui est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. Et ensuite notre prophète صلى الله عليه وسلم nous a clarifié ça dans ce sens, il l'a clarifié dans sa tradition. Et il a rapporté hadith Abdullah ibn Mas'ud avec sa chaîne de transmission dans le Musnad de l'Imam Ahmad qui est dans d'autres ouvrages de la Sunna, dans d'autres recueils de la Sunna. Et ce hadith est un hadith authentique dans lequel il a dit, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit « Khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » faqal. Donc le prophète alayhi wa sallam a fait une ligne droite, une langue, il a tracé sur le sol, il a tracé une longue ligne droite. Il a dit هذا سبيل الله. Voici la voie d'Allah. ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه. Et en plus, il a fait des traits qui sont plus courts que cette voie droite qui est longue. Il a tracé longue. Il a fait à sa droite, comme ça, en plus incliné. À droite et à gauche de cette ligne droite, il a tracé des traits plus courts. Et ensuite, il a dit هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ Il a dit, et cela sont des chemins sur chacun d'entre elles, ou sur chacun d'entre eux, il y a un shaitan auquel il appelle. Il appelle à ce chemin qui est éloigné et écarté de la voie droite. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما le verset. Ensuite le prophète sallam a lu ce même verset qu'on vient de lire. ثم ذكر بعض طرق الحديث ثم قال فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Et après avoir cité plusieurs chaînes de transmission de ce même hadith, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous ont mis en garde contre les innovations et les passions qui repoussent et qui empêchent de suivre l'ordre d'Allah et la tradition de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فهذا الحديث ظاهر في أن من التزم بمنهج النبوة أمن من الوقوع في شراك سبل الشيطان وطرق غوايته. Donc ce hadith, il est explicite dans le sens que celui qui se tient à la méthodologie de la prophétie, la méthodologie prophétique, il sera à l'abri de tomber dans les pièges de Shaitan et de suivre ses sentiers et de suivre les chemins de l'égarement. وَمَنْ حَادَ عَنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Et celui qui se détourne de la voie des croyants, وَقَعَ فِي حَبَائِلِ الشَّيْطَانِ Il tombera forcément dans les pièges et les stratagèmes de Shaitan, qu'Allah nous en préserve. Donc ça, ça nous rappelle des choses très très importantes. Il faut qu'on soit conscient de l'importance de notre religion et de l'importance de la ni'ma immense d'être sur la vérité. C'est le trésor le plus grand de tous les trésors, d'une manière absolue. Donc, il ne faut pas jouer avec la religion. Et il ne faut pas exposer notre foi et notre croyance à des dangers. Et quand vous voyez des imams comme Mohammed ibn Sirin, est-ce que vous vous rendez compte de la science qu'avait cet homme Muhammad ibn Sirin, parmi les imams de Tabi'in. Il ne prenait pas le risque d'écouter et d'entendre un verset de la bouche d'un innovateur et d'un égaré. Un hadith authentique. Alors que nous, ce n'est pas des versets ou des hadiths qu'on entend. Des gens ont des ambiguïtés. Et après, on attrape énormément d'ambiguïtés et on ne sait plus comment s'en sortir. Wallahi, ya ikhwa, ça m'attriste énormément de voir un jeune, un débutant, qui n'a pas encore les outils de la compréhension. Mais qu'est-ce que tu peux lui faire? Car il n'a pas les outils de la compréhension. Il n'a ni la langue arabe, il n'a pas étudié au solfège, il n'a étudié aucun outil de la science et de la compréhension. Et qui a déjà une image noire des hommes de science. Une très mauvaise image de l'ulama. Et ça, je l'ai vu chez plusieurs jeunes, à l'égard de Cheikh Rabi'a. Au début de cette fitna, j'ai entendu des jeunes que je connaissais avant avec des mauvaises opinions de Cheikh Rabi'a. Une mauvaise image de ces hommes de science. Et ce n'est pas des choses qu'ils te rapportent qu'ils ont vues ou là qu'ils ont vécues. C'est des ambiguïtés qu'ils ont attrapées. Nas'alullah salamata wa al-afiyah. Ensuite, Cheikh Hafidhahullah a rapporté une citation de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre très bénéfique et très profitable, même pour les débutants, Al-Fawa'id. Dans lequel l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, et les savants avaient l'habitude de faire des livres dans lesquels ils vont, c'est comme des Fawa'id. Qu'il lit dans des livres, ou là qu'il entend de ses chouyours, ou là des certaines méditations qu'il puisse avoir sur certains textes, des versets ou des hadiths de sunna, il les regroupent dans un seul ouvrage. Ils appellent ça al-fawa'id. Ou comme Ibn al-Jawzi a nommé son livre, Sayyid al-Khatir. Malgré que, par contre, le livre, il n'est pas pour les débutants, Sayyid al-Khatir. Car il comporte des erreurs dans la croyance. Amma al-Fawa'id, c'est un livre très profitable et très bénéfique pour tout musulman. Donc il a dit لَمَّا أَعْرَضَ النَّاسُ عَنْ تَحْكِيمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْمُحَاكَمَةِ إِلَيْهِمَا وَاعْتَقَدُوا عَدَمَ الْاِكْتِفَاءِ بِهِمَا. Il dit que quand les gens se sont détournés de prendre comme juge le livre d'Allah et la sunna de son prophète, et de se juger aux lois d'Allah, quand les gens se sont détournés et se sont éloignés de ceci, et qu'ils ont cru que la loi d'Allah n'est pas suffisante, à savoir le kitab ou le sunna, qu'ils ne sont pas suffisants. Et ils se sont dirigés et orientés plutôt vers les avis des hommes. وَعَدَلُوا إِلَى الْآرَاءِ وَالْقِيَاسِ. Et vers les analogies des hommes. وَلِسْتِحْسَانِ. Est-ce que les gens trouvent comme bien? Tel savant trouve que telle pratique est une bonne chose. Sans que ce soit basé sur des preuves de le Coran et de la Sunna. Et le sihsan, c'est parmi les arguments. C'est parmi les arguments au sujet desquels il y a une divergence. Quand vous étudiez au sol fiqh, vous étudiez les arguments au sujet desquels il y a unanimité. Qui sont le kitab, le sunna, le qiyas, le ijma'. Et vous étudiez aussi les six autres arguments au sujet desquels il y a des divergences. Et dans tous ces arguments dans lesquels il y a des divergences, il faut savoir qu'il y a une catégorie sur laquelle il y a unanimité. Donc l'istihsan, il y a une catégorie de istihsan qui est un argument à l'unanimité des hommes de science. Mais d'une manière générale, on n'a pas recours à l'istihsan tant qu'on a des textes de le Coran et de la Sunna, ou des consensus, ou une analogie juste et authentique. Qiyas sahih. Et ils se sont orientés également vers les avis et les paroles des chouyours. عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. Donc, le fait de se détourner de le Coran et de la Sunna, et l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme vous savez, il parle de ce phénomène dans les six fondements. Il parle de ce problème que les gens se sont éloignés de le Coran et de la Sunna sous prétexte qu'il n'y a que certaines personnes qui sont capables de les comprendre, et il faut telle et telle condition pour les comprendre, et qu'à notre époque, il n'y a plus personne qui comprend le Coran et la Sunna. Donc on doit tous revenir vers les hommes de science. Et ça, c'est pas vrai. Donc il y a deux extrêmes, il y en a qui ferment la porte de l'ijtihad d'une manière absolue, et il y en a qui l'ouvrent pour tout le monde, qui ouvrent l'ijtihad pour tout le monde. Ces deux extrêmes sont blâmables. Et le juste milieu, c'est que l'ijtihad continue dans notre communauté, mais pour ceux qui ont les outils. Amma al-ammi, il suit l'ulama. Il n'a pas d'ijtihad à faire par rapport au texte. Lakin, il fait son ijtihad dans le choix des hommes de science de confiance. Il revient vers les grands savants, reconnus pour leur intégrité, pour leur confiance, pour leur suivi de le manhaj salafi. Yani, quelqu'un, il va suivre un homme, il entend son nom pour la première fois. Il n'a jamais été cité comme référence. La première fois de sa vie, il prend connaissance de cet homme et il le suit dans des choses graves qui divisent la communauté. Donc, quand ils étaient touchés par ce fléau, le détournement de le Coran et de la Sunna, et l'éloignement de le Coran ou de la Sunna, et le suivi des avis, des paroles, des savants, et de l'istihsan, et de l'analogie, et d'autres choses, ceci a causé pour eux une corruption dans leur nature humaine saine. سبب لهم فسادا في فطرهم. Regardez, qu'est-ce qui fait que certaines personnes, quand tu les rencontres, tu ne comprends pas comment ils comprennent. Tu te dis, mais pourquoi ils raisonnent de cette manière ? Là, on comprend pourquoi. Parce qu'il a commis un péché au début, il a été puni comme ça par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne lui donne pas la bonne compréhension. Donc, ils étaient touchés par une corruption dans leur nature humaine saine. Et une obscurité dans leur cœur. Regardez comment c'est fort ces paroles. C'est pour ça, ne prends pas, ne joue pas avec ta religion. La tal'ab bidinik. Ne crois pas que tu es à l'abri. Le début de l'égarement, c'est de penser qu'on est à l'abri. Et t'es préservé tant que t'as peur pour ta religion. T'as peur pour cette ni'ma immense par laquelle Allah t'a comblé. Tout en sachant que tu ne l'as pas obtenu par ton intelligence ou là. Si on avait, comme le frère m'a dit hier, si on avait fait comme ça, on ne serait pas guidé dans telle ou telle autre fitna. Hier, si tu es guidé, ce n'est pas parce que tu es intelligent ou là. Allah t'a guidé. Seulement, Allah t'a guidé. Tu n'as aucun mérite dans cela. Remercie Allah. وَكَدَرٌ فِي أَفْهَامِهِمْ Et aussi une altération dans leur compréhension. Ils étaient touchés par une altération de leur compréhension. يعني الكدر هي بحال la pollution. Leur compréhension a été troublée. مَاءٌ مُتَكَدِّرٌ Une eau troublée. وَمَحْقٍ فِي عُقُولِهِمْ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ Une détérioration dans leur raison. Une détérioration dans leur raison. La raison est devenue défectueuse. Et en plus, ces phénomènes se sont généralisés parmi eux. La plupart des gens sont devenus comme ça. Regardez, subhanallah, comme s'il parle de notre époque. La plupart des gens sont devenus comme ça. Ces phénomènes se sont généralisés. Car la plupart d'entre eux se sont détournés de le Coran et de la Sunna. Ce ne sont plus des références. Et ça, je ne vous parle pas de l'awam. Je vous parle même de grandes références dans la science. Des gens qui sont vus comme des très très grands savants. Là qui dit non, il est interdit de revenir au Coran et de la Sunna. Comme les juifs, ils disent par rapport à la Torah. C'est interdit de revenir à la Torah. Donc tu reviens vers qui ? Tu reviens vers l'homme de science. وغلبت عليهم حتى ربى عليها الصغير. Et ces phénomènes et ces fléaux sont devenus prédominants et ont régné jusqu'au point où les jeunes parmi eux et les petits parmi eux ont grandi dans ça. Ils n'ont connu que ça. On ne revient pas vers le Coran et la Sunna. Et les personnes âgées parmi eux ont vieilli dans cette manière de comprendre la religion. Et puis, ils ne la considèrent plus comme quelque chose de blâmable. Au contraire, c'est ça la Sunna pour eux. C'est que tu ne reviens jamais le Coran et la Sunna. فجاءتهم دولة أخرى. Et par la suite, la prédominance et la supériorité a changé de camp. الدولة هي الدائرة. يعني, qu'est-ce qui est devenu prédominant à leur époque? C'est ce qui a été cité précédemment. قامت فيها. Et ça a causé quoi par la suite comme conséquence? Et donc les innovations ont pris la place des sunan. Tu leur dis, ça c'est une sunna, ils disent non, c'est une bid'a. Et tu lui dis, ce que tu fais, c'est une bid'a. Il dit, non, c'est ça la sunna. Et ça, c'est cité dans un hadith. Hadith Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, avec ces termes. والنفس مقام العقل et les envies et la personne a pris la place de la raison. J'ai pas eu le temps de vérifier ce point. Nafs, qu'est-ce qui est voulu? Est-ce que c'est pas une erreur de frappe ou là? Lakin, j'ai pas bien compris ce que Cheikh veut dire par nafs. Yani, Inch'Allah, je vais revenir à la parole de l'imam Ibn al-Qayyim pour vérifier ce qu'il a dit ici. Al-Nafs. Là, d'une manière générale, les gens ont délaissé. Ce qu'on comprend, c'est que les gens se sont écartés du bon raisonnement. Wal-hawa maqam al-rushd. Et que la passion a pris la place de la droiture. C'est quoi la droiture pour eux? C'est de suivre les passions. Wal-dalalu maqam al-huda, et l'égarement a pris la place de la guidée. C'est quoi la guidée chez eux? C'est ce qui est considéré comme un égarement dans la religion d'Allah, sur laquelle était le prophète alayhi salam. Yani, les mesures se sont inversées. وانتكست القلوب فصارت ترى الخير شرا والشر خيرا أعاذنا الله من هذا. Et le Nabi alayhi salam a décrit les cœurs, certains cœurs de cette manière, pour lesquels les mesures s'inversent. Ils voient le mal comme un bien, ils voient le bien comme un mal. Ça, vous le trouvez bien évidemment chez le kuffar, c'est pas étonnant, car ils sont yani, dans une autre planète, complètement éloignés de la révélation, de la lumière, de la révélation et de la guidée. Une femme qui se déshabille, qui marche presque nue dans la rue, c'est de l'émancipation, c'est de l'ouverture et c'est la liberté de la femme. Une femme qui se couvre et qui préserve sa chasteté, c'est une femme arriérée. C'est une femme privée de sa liberté. Entendre ça d'un kafir, ça ne t'étonne pas. Naam, le nada, il est coupé de la révélation. Il n'a pas de lien avec la révélation. Là, le problème, c'est d'entendre ces mêmes raisonnements et l'embellissement du mal de la bouche de quelqu'un qui prétend suivre la révélation. Lakin, hatiahua, en réalité, tu trouves qu'il ne suit pas la révélation. L'anna, il a été éloigné de le Coran et de la Sunna, de la source, par des ambiguïtés. Wal munkaru maqam al ma'ruf. Également, les choses blâmables ont pris la place des choses convenables. Et l'ignorance a pris la place de la science. C'est quoi la science pour eux? C'est l'imitation aveugle. Et l'ostentation a pris la place de la sincérité. Le sincère pour eux, c'est celui qui fait l'ostentation. Et le faux, la place de la vérité. Et le mensonge, la place de la véracité. Et la flatterie, la place du conseil. Et arrêtons-nous sur ce point. Vous allez trouver que par rapport à ce point en particulier, yani, qui d'entre nous n'est pas touché par ce phénomène? Yani, dans nos amitiés, dans nos relations avec les frères qu'on aime, est-ce qu'on conseille? Yani, si tu commences à conseiller les frères que tu fréquentes, ils vont tous te fuir. C'est pour ça, le plus souvent, on a recours à la flatterie. On dit que des bonnes choses. Lakin, tu ne lui dis pas ses défauts. Entre toi et lui. Adawan nasiha. Amma les raconter aux autres, c'est le riba ou le namima. Lakin, avec ton frère, est-ce que tu es dans le nasiha? Ya akhi, fais attention à ça, de ta religion. Et tu lui dis à lui seul. C'est pas tu répètes ça derrière lui. Lakin, le plus souvent, on est dans le mudahana. On se flatte entre nous, mashallah, on se complimente, on se dit que des bonnes choses. Comme ça, on reste des bons amis. Nana, dès que tu vas commencer à dire aux gens les choses telles qu'elles sont, comme Allah il veut, ils vont te prendre comme ennemi. Pourquoi? Car le plus souvent, ils ne sont pas habitués à un nasiha. Yani, la personne, peut-être qu'elle connaît une vingtaine ou là, une trentaine de frères, et personne ne lui dit ce que tu lui dis. Il n'y a que toi qui dis ça. Donc, peut-être que tu as une maladie du cœur, peut-être que tu as une jalousie, tu n'es pas normal. Comme a dit Uwais al-Qarani, rahimahullah ta'ala. Ma taraka lana al-amru bil ma'rufi wa an-nahyu an al-munkari min sahib. Il a dit le fait de. Et vous savez, Uwais al-Qarani, il est entré en islam pendant le vivant du prophète, alayhi sallam, mais il n'a pas pu le rencontrer par rapport à sa mère, de laquelle il s'occupait. Il est venu à Médine une fois que le Nabi sallam était déjà décédé. C'est pour ça que c'est un tabi'i, et c'est le meilleur de tabi'in, rahimahullah. C'est un homme d'une grande piété, au point que le Nabi sallam a demandé à Abu Bakr et Omar radiallahu anhu, s'il le rencontre, de lui demander de leur faire des du'as. Et lui, déjà, il dit « Ma taraka lana al-amru bil-ma'rufi wa an-nahyu 'anil munkari min sahib. » Le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable ne nous a pas laissé d'amis. On les conseille, ils nous insultent. Ils nous prennent comme des ennemis. Il a dit, par Allah, nous allons continuer à le faire. Que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, c'est ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. والمداهنة مقام المناصحة والظلم مقام العدل. Et l'injustice a pris la place de la justice et l'équité. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور. Et donc la prédominance a été pour ces choses-là qui ont pris la place des choses qui étaient prédominantes à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام et dans les trois premières générations. La guider, le conseil, la science, et ainsi de suite. Et la sincérité, et ce qui a pris la place, c'est leurs opposés. Wa ahluha, et ceux qui lèvent l'étendard de ces égarements, sont devenus les gens respectables, et les gens qui reçoivent l'admiration. وكانت قبل ذلك لأضدادها. Alors qu'avant c'était plutôt l'inverse. وكان أهلها هم المشار إليهم. فإذا رأيت دولة هذه الأمور. Donc هذا هو le résumé. Il dit, si tu vois que ces choses sont devenues prédominantes, l'ignorance, le suivi de la passion, les innovations, l'ostentation, et ainsi de suite. Si tu vois qu'elles sont devenues prédominantes et que leurs étendards sont devenus les plus élevés et leurs armées sont devenues les plus forts, alors à ce moment-là, sache que le milieu de la terre est meilleur pour toi par Allah que sa surface. D'être au milieu de la terre ce jour-là, c'est meilleur pour toi que d'être sur la surface de la terre. C'est-à-dire d'être du nombre des morts est meilleur pour toi que d'être du nombre des vivants. D'arriver à cette époque-là. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans? Regardez les gens qui suivent la vérité. Les gens qui ont la bonne compréhension de la religion. C'est une toute petite minorité comparée au nombre des musulmans. وقل للجبال خير من السهول. Également, et les sommets des montagnes ce jour-là deviennent meilleurs que la terre étendue. De s'isoler et d'aller vivre sur le sommet d'une montagne tout seul est meilleur pour toi ce jour-là que de vivre avec les gens dans les terres étendues, dans les plaines, et ainsi de suite. Wa mukhalatatul wuhushi aslamu min mukhalatatin nas. Et de fréquenter des animaux. Et le wuhush, ce sont les animaux inapprivoisés. De fréquenter des lions et des loups et des tigres et des renards. Allah moussa. Ce jour-là est meilleur que de fréquenter des humains. Et ça t'expose à moins de dangers. T'imagines, Yahri? Et ça, c'est des expressions pour indiquer le grand danger. Que le mal prenne la place du bien et devient prédominant et devient répandu et que les gens ne connaissent que ça. Et si tu leur demandes c'est quoi l'islam, ils te disent voilà c'est ça. C'est shirk. Tawhid pour eux c'est quoi? C'est shirk. Et sunna pour eux c'est quoi? C'est le bid'a. Et le bien c'est quoi? C'est le mal. Les mesures s'inversent. Nasalullah as-salamati wa al-afi. Ensuite, dans le cinquième point, le cinquième mérite, il a dit « Anna al-multazima biha lahu ajru man tabi'ahu lima akhrajahu l'imam muslim min hadithi Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu. Qawlahu sallallahu alayhi wa sallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'a. » Donc, parmi les mérites du suivi de la salafia et du suivi de la voie des pieux prédécesseurs, c'est que celui qui emprunte cette voie aura la récompense de tous ceux qui le suivent sur la même voie. S'il appelle les gens à suivre cette voie, il aura la même récompense que eux jusqu'à la fin des temps. Comme ça a été rapporté dans le hadith Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu, dans l'authentique de l'imam muslim, le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit « Man sanna fil islami sunnatan hasana » celui qui instaure une bonne tradition. Celui qui instaure une bonne tradition aura sa récompense, ainsi que la récompense de tous ceux qui œuvrent avec, sans que ça diminue leur récompense, sans que ça diminue leur récompense. Celui qui instaure en islam une bonne tradition, c'est-à-dire celui, comme il va le dire Cheikh, il a dit, ça c'est un hadith que certains innovateurs utilisent pour légitimer les innovations. Et ils disent, il y a des innovations qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Alors qu'il n'y a pas dans le bid'a, c'est comme le Nabi a dit. Tout bid'a, kullu bid'atin dalala. Chaque innovation, yani l'innovation c'est un acte d'adoration avec lequel tu te rapproches d'Allah qui n'a pas été enseigné par le Nabi a. Nous avons sunna et bid'a, il n'y a pas autre chose. Sunna c'est ce qui est conforme à l'enseignement du prophète a.s. Al-bid'a c'est une chose qui n'est pas conforme à l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Mais la bonne compréhension de ce hadith, c'est que celui qui revivifie une sunna du prophète alayhi salatu wassalam, par exemple, une sunna que le Nabi alayhi salatu wassalam nous a enseignée, mais que les gens ont délaissée, ou que les gens ont ignorée. Le fait de revivifier cette sunna, tu rentres dans ce mérite. Et également, si c'est dans le domaine de ce qui est autorisé. Par exemple, ce hadith, il a été dit à quelle occasion? Ça, c'est très important. Comme vous savez, dans le Coran, il y a asbab nuzul qui vous aide, quand vous avez un verset avec un sabab nuzul, il vous aide encore mieux à comprendre le verset. Pourquoi il a été révélé, ce verset? Il y a des versets qui ont été révélés par rapport à certains événements, certaines circonstances, avec des causes de révélation. Et d'autres versets ont été révélés sans cause. Comme ça, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, c'est exactement pareil. On les appelle asbabul wurud. Asbabul wurud. Pourquoi le Nabi a dit ce hadith? Des fois, Nabi Aslam, il va dire des choses pour enseigner ses compagnons sans qu'il y ait une raison. Et des fois, il va le dire par rapport à une raison. Ce hadith, Nabi Aslam l'a dit quand il a vu des hommes très pauvres qui venaient du Yémen. Je vous dis ça de mémoire. Il y a des gens très pauvres et Nabi Aslam a été très touché par leur état et par leur grande pauvreté. Et il a demandé à ce que les gens les aident et à ce que les gens font la sadaqa pour les aider, pour aider leurs frères. Et un homme est parti le premier. Il a ramené beaucoup de biens et il les a mis devant le Nabi sallam comme sadaqa pour ces gens-là. Et quand les autres l'ont vu, ils sont tous partis chez eux et chacun a ramené ce qu'il pouvait ramener. Et le Nabi sallam s'est énormément réjoui de cela. Il a dit « Man sanna fil islam sunnatan hasana » c'est-à-dire celui qui a instauré une bonne tradition, une bonne pratique. Est-ce que cet homme a inventé sadaqa? C'est lui qui a inventé sadaqa? Non. Sadaqa, c'est un enseignement dans l'islam. Mais lui, c'est le premier qui l'a fait et par la suite, il a été suivi. Comme quelqu'un qui appelle les gens à construire une mosquée. Est-ce que la construction d'une mosquée, c'est une bid'a? Non. C'est une sunna. Mais c'est lui le premier qui a appelé à ce bien. Il aura sa récompense et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi. Amma celui qui invente une adoration dans l'islam, comme le fait de lire le Coran en groupe, sous prétexte que si on ne fait pas ça, le Coran sera oublié et... Non, ça c'est une innovation. Car le besoin de préserver le Coran et de le garder mémorisé, ce besoin était présent à l'époque du prophète. Et la possibilité de faire une récitation en groupe était possible à l'époque du prophète. Et il ne l'a pas fait. Ça veut dire que ce n'est pas un moyen légiféré. Et celui qui définit ces choses de la manière la plus parfaite, c'est Ash-Shatibi dans son livre l'Atisam. Il y a une chose, un besoin qui était présent à l'époque du prophète, et on avait à l'époque les causes de le faire, et Nabi ne l'a pas fait, ça veut dire que ça ne sera jamais légiféré. Contrairement à quelque chose dont le besoin n'était pas présent. Par exemple, d'utiliser le micro pour l'imam quand il dirige la salat. Est-ce qu'il y avait ce besoin? Il n'y avait pas ce besoin. Il y en a, la mosquée du prophète Assasem, c'était 2 ou 3 rangs. Et en plus, il n'y avait pas le moyen de le faire. Ce moyen n'existait pas. C'est pour ça, ça ne rentre pas dans le bid'a, mais ça rentre dans ce qu'on appelle al-masalihul mursala. Ou ce qu'on appelle dans Usul al-Fiqh, al-istislah. Et ça fait partie des arguments de la législation. L'adilla al-mursala fiha. Al-masalih al-mursala. Donc celui qui revivifie une guidée du prophète alayhi sallam et la guidée de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, et ainsi que la guidée de nos pieux prédécesseurs, et qui propage cela chez les gens, et qu'il soit pris comme exemple par la suite et suivi dans ce bien, aura son salaire, le salaire de son œuvre, ainsi que le salaire de tous ceux qui l'ont suivi, sans que ça diminue leur salaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الحافظ النووي في شرح مسلم فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. النووي رحمه الله a commenté ce hadith dans son explication de l'authentique de l'imam muslim. Il a dit dans ce hadith une incitation à commencer les œuvres du bien et à instaurer les traditions, les bonnes traditions, et une mise en garde contre l'innovation des choses caduques et obscènes dans la religion. Les indignités. المستقبحات. طيب لعلنا سنقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى le cinquième point et on terminera le dernier point avec les autres paroles des savants. dans notre cours, dans notre prochain cours bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.